L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Alors Bernard Vacherot, bonjour.
Salut, salut à tous, salut à toi cher.
On était parti sur l'histoire des religions, puis on se retrouve à raconter l'histoire du fric, comme vous disiez hors antenne la semaine dernière.
Bien sûr, bon. Ben, ce franciscain dont je vous parlais lors de la dernière émission, ce franciscain Luca Pacioli, avait rédigé, en 1494, un livre intitulé « Summa Arithmetica », bon, c'est-à-dire le sommet de l'arithmétique, œuvre qui contribua largement à l'évolution de la comptabilité à partie double de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Et comme vous le dites, c'est en rapport avec cette découverte des pays d'Amérique, hein, Christophe Colomb, etc., qui va apporter un énorme capital, surtout avec l'or, le métal précieux, qui n'est pas allé que sur les rétables des églises dédiées à la Vierge, et etc., mais qui est allé aussi sur les pièces de monnaie et financer le capitalisme de l'époque.
Et finalement, c'est le début de la grande dette de l'Europe.
Eh ben oui. Eh ben oui. Je suis au regret de dire à messieurs les franciscains que ce sont eux qui ont commencé à nous y mettre. C'est un peu vache de ma part.
Hein. C'est chercher la petite dette.
Voilà. Telles furent les bases du fonctionnement et du développement du capitalisme et de sa doctrine au cours du Moyen-Âge. Et il est amusant de constater que si François d'Assise, fondant son ordre des franciscains en 1208-1209, fut en accord fondamental, en désaccord plutôt, pardon, fondamental, avec le capitalisme de son temps, entre 1181 et 1226, l'histoire de l'alliance des mathématiques et du capitalisme se noue en 1494 avec le franciscain Luca Pacioli, auteur d'une Summa Arithmetica, fondatrice du grand capitalisme que nous vivons toujours. Alors ce voyage que nous venons d'accomplir dans l'histoire du monde capitaliste au Moyen-Âge, à l'époque durant laquelle évolua saint François d'Assise, nous aide à mieux comprendre certains éléments et composantes de ces réactions qui, sinon, peuvent paraître un peu primaires ou naïves ou enfantines. Fils de Pierre Bernardone, François était logiquement destiné à entrer, comme son père, grand commerçant, drapier d'Assise, dans ce système capitaliste, du fait que de son état et de son éducation familiale, dominé par un père aimant, mais très dominateur, qui laissa peu de place à l'éducation maternelle de sa mère, nommée Pica, d'origine noble de famille, de la plus haute noblesse provençale, les Bourlemont. D'après le franciscain Frassène, théologien du XVIIe siècle. Mais cette assertion ne semble pas pouvoir être confirmée, faute complète de documents écrits confirmant cela. Mais absence de documents ne signifie pas perte ou disparition, ce qui ne permet pas non plus de déclarer péremptoirement que tel ne fut pas le cas. Contrairement à ce que fait Homer Englebert, auteur de l'ouvrage « Vie de saint François d'Assise » aux éditions Albin Michel, Paris, 1947, reprise en 1972, qui nous sert pourtant de base pour évoquer la vie, l'œuvre et la pensée de saint François d'Assise en son temps. Justement, Nous avons vu que, dans l'univers des marchands du Moyen-Âge, les voyageurs commerciaux étaient fréquents et nombreux. Ce fut le cas pour Pierre Bernardone, père de Saint-François d'Assise, alors en Champagne, qu'en naquit son fils François en 1181. Le fait que le père se trouve, au moment de la naissance de son fils, en Champagne française, prouve bien que les grands commerçants d'alors, et il était un grand commerçant en vêtements et tissus, voyageaient. Malgré les fluctuations politiques et financières, Frédéric Barberousse parvint à maintenir la paix et l'Italie en profitant, put jouir d'une grande prospérité, permettant ainsi au commerce du drap de devenir des plus florissants, ce dont bénéficia justement Pierre Bernardone, père de notre François d'Assise. François fut baptisé sous le prénom de Jean le Précurseur, autrement dit Jean-Baptiste, patron des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte, ordre fondé en 1113. Mais, revenu de son voyage en France, Pierre Bernardone, qui n'avait pas assisté au baptême, changea le prénom de son fils en François et n'eut de cesse que François apprenne le français. Oui, oui, l'influence de la langue française, hein. Enfant, ce ne fut pas un élève doué pour les études et pour le latin. Il préféra les jeux. Il n'est pas le seul, hein. Bon. Il ne sut jamais écrire correctement et dut dicter ses rares écrits au frère Léon et ne sut signer que par une croix si mal faite qu'elle ressembla à un taux. Il fréquenta beaucoup les fêtes où chantaient les troubadours qui sillonnaient la France, surtout méridionale, et l'Italie, ce qui le conduisit à s'intéresser aux tournois, aux jolies femmes, et on le comprend, et fort peu à la théologie. Très tôt, Pierre Bernardone impliqua son fils dans ses affaires commerciales, et il semble qu'il ait accompagné son père lors de ses voyages en France, car, jeune homme, il déclara aimer ce pays et renouvela la chose plus tard en disant qu'en France, on respectait les choses sacrées et en particulier le Saint-Sacrement. D'une part, aventureuse. De l'autre, travailleuse. Mais aussi portée au plaisir, aux amusements, aux jeux, aux combats. La vie de François fut faite à la fois de générosité et d'intérêt pour les pauvres. C'est là un aspect très intéressant du développement de la personnalité de cet homme. Cette dualité qu'il va mener de front, unissant les contraires que sont par exemple le luxe des tissus et brocarts qu'il vend aux riches bourgeois et ecclésiastiques, et son intérêt pour la classe des plus pauvres. On y retrouvera cette dualité plus tard, chez saint Vincent de Paul, qui vécut de 1581 à 1660. Alors, doit-on voir ici percer les débuts d'une prise de conscience larvée de classe, sur fond presque inconscient ou en évolution, de l'opposition entre un univers riche, bourgeoisie, ecclésiastique, noblesse, etc., et une classe sociale de démunis. La chose est loin d'être impensable, si l'on étudie l'histoire des révolutions et les évolutions de celle-ci.
Vous avez posé une question très intéressante qui mérite
Merci.
Quelques minutes pour que nos auditeurs y réfléchissent. On se retrouve après cette pause musicale.
D'accord, mon ami.
La pensée de François d'Assise était-elle une prise de conscience de classe?
Je pense.
Vous tapez un pour oui.
Sincèrement, je pense oui.
Oui.
Je pense oui. Vous voyez, au début, le personnage de François d'Assise m'agaçait. Là, je vous parle personnellement de mon cœur. Hein. M'agaçait, je le trouvais naïf, quelque peu bébête, dans sa piété même. Et plus j'ai étudié sa vie, plus je me rends compte que pour un homme de son époque, lui qui n'avait pas fait d'études, qui n'avait pas fait ceci, fait cela, ou d'accord, qui n'était pas un intellectuel, bon, peut-être justement grâce à cela, est arrivé avec un certain réalisme non atteint par un intellectualisme un peu borné et étroit, et entrant dans les classes populaires, a pu comparer avec la bourgeoisie qu'il servait, les ecclésiastiques, les nobles, etc., par ses beaux vêtements, n'est-ce pas, qu'il vendait, et donc prendre conscience de différentes classes, sans compter tout l'univers commercial que son père lui enseignait, parce que quand même, il était au courant du système de l'argent, du monde du capitalisme, etc. Donc je pense, oui, qu'il y a eu une prise de conscience de la lutte des classes dans la vie de François d'Assise. Voilà, alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais d'autres...
Ça répond à la vôtre, en tout cas. C'est vous qui avez posé la question.
Oui, non, mais je la pose parce que elle se pose. Hein. Alors, d'autre part, certains mouvements religieux allaient dans un même sens d'opposition, d'ailleurs, entre une église liée à une classe dirigeante, riche, et une population pauvre. Prenons des exemples. Le bogomilisme et le catharisme.
Le bogo quoi ?
Bogomilisme.
Le bogomilisme.
La doctrine des bogomiles.
Ah oui, j'avais peur d'avoir mal entendu.
Non, mais qui... oui, mais j'ai peut-être mal prononcé, ça c'est vrai aussi, hein. Qui est, on pense, parti à l'origine du catharisme. Alors, le catharisme était très présent dans le sud de la France. Il y avait aussi les Vaudois, ou pauvres de Lyon, de Pierre Valdeau, et encore d'autres mouvements, laïcs ou religieux, qui traduisaient le mal à l'aise perceptible dès le Moyen-Âge dans le domaine socio-économique. Un auteur, deux auteurs, Maurice Dobbe et Paul M. Sweecy, co-auteurs de l'ouvrage intitulé « Du féodalisme au capitalisme, problème de la transition » aux éditions FM, petite collection Maspero en 1977, montrent qu'entre la période allant de l'an 1000 à celle du début du XIVe siècle, l'Empire romain d'Occident connut une période de régression féodaliste au plan économique, allant tout au long de la chute de l'Empire romain d'Occident, donc depuis la fin du Ve siècle au Xe, qui, aux abords de cet an 1000 et ce jusqu'au XIVe, connut au contraire, une période de développement économique. Alors, cela se traduisit par un essor démographique, agricole, influence, là, alors justement, du rôle des moines et des moniales. On en a parlé au début de notre session, si j'ose dire, hein. L'influence agricole des moines et des moniales dans le développement de l'agriculture et donc de la paysannerie. Développement des débuts d'un monde industriel mêlé d'artisanat, de commerce. Nous venons de vérifier cela avec le cas de Pierre Bernadon, père de François d'Assise. Alors par contre, il y a eu une période, celle des 14e et 15e siècles, qui a connu un grand temps de crise dû à un effondrement de la grande exploitation féodale avec germe de révolution sociale. Les réactions moyenâgeuses hostiles aux excès de richesses ecclésiastiques, bourgeoises, nobilières, des classes dirigeantes, peuvent-elles être classées de ce qu'aujourd'hui nous définirions comme une forme de socialisme utopique ? Question. La question reste en suspens et mérite approfondissement, car la définition connaît de nombreux développements contradictoires. Là, je pense par exemple, j'y reviens là-dessus, au spirituel dirigé par Bernard Délicieux, franciscain, qui s'est opposé très fortement au pape d'Avignon Jean XXII Jacques Duez de Cahors, qui est allé jusqu'à excommunier cet homme. Bon. Alors, vous voyez, le contexte était très contrasté. Pour en revenir à François d'Assise, nous sentons donc se dessiner chez lui vers cette période une prise de conscience encore informelle, hein, mais présente en lui et qui commence à occuper son esprit. Cela entrera dans sa vie dans le cadre d'un développement contrasté de sa personnalité, car en même temps se développe chez lui cette prise de conscience. Le voilà qui participe allègrement aux réunions tapageuses et débauches souvent excessives de la ville d'Assise, en compagnie de jeunes tout aussi désœuvrés et débauchés que lui, cela aux grandes dames de ses parents, qui n'y peuvent rien et ne peuvent que pardonner.
Quoi, il aurait commis le péché de chair ?
Mais bien entendu !
C'est ce qu'il dit dans son testament, en tout cas.
Mais bien entendu, hein ? Alors le voilà donc, partagé entre le sérieux des affaires commerciales et la débauche et son intérêt pour les pauvres et les classes populaires en un début de spiritualité.
Et du coup, son expérience de conversion va nous en dire long sur comment est-on touché par la grâce.
Oui, oui.
Et alors ça, il va falloir attendre la semaine prochaine pour commencer l'émission avec ça.
Avec plaisir.
Merci Bernard Vacherot.
Au revoir.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.